Nous devons assurer la sécurité des Français. Ni privilégier de la sécurité, ni impunité pour les voyous.
Le risque d'atteinte grave aux lois de la France.
T'as pas intérêt à venir au sommet antisécuritaire, je te préviens.
Le samedi 21 novembre,
de 17h30 à 22h30,
à la Bourse du Travail de Saint-Denis, métropole de Paris.
Avec Maurice Rachfus,
Jean-Marc Renault,
Mathieu Rigouste.
Tous des délinquants,
tous des racailles,
tous des voyous,
tous fichés.
Bonsoir. Alors je vais vous présenter le programme de la soirée. Donc bienvenue à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Donc ce soir on a un programme un petit peu chargé, on a plein de choses à faire et à entendre. Donc on a différents invités qui vont intervenir au cours de la soirée. On va commencer par trois interventions qui vont s'enchaîner. Donc la première ce sera Mathieu Rigouste, ensuite on aura Maurice Rachfus et pour finir Jean-Marc Reynaud. Donc ce sera trois interventions d'une demi-heure chacune, donc après on aura mérité une petite pause. Vous avez remarqué qu'on a préparé un petit peu à manger et à boire pour pouvoir se restaurer. Puis il y a des tables de presse et des points infos si vous voulez prendre contact avec les gens qui sont venus participer donc, à cette soirée. Et donc ensuite on reviendra pour deux nouvelles interventions avec le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues. Et avec mauvaise intention. Et une fois qu'on aura fini donc ces deux interventions là, on enchaînera avec un débat où tout le monde pourra participer et avec notamment tous les intervenants qui se seront exprimés avant. Et donc vous pourrez vous leur poser toutes les questions que vous aurez à leur poser. Et puis en espérant que on puisse réfléchir ensemble à des moyens de lutte et une façon d'organiser une riposte à l'offensive que nous subissons. Donc je vais demander à Mathieu Rigouste de venir nous rejoindre.
Bonjour. Donc j'étais invité pour un travail qui a été publié en février dernier qui s'appelle L'ennemi intérieur, qui est une thèse sur l'histoire du système sécuritaire et sur la manière dont l'État, la police et l'armée se représentent et représentent les figures de l'ennemi intérieur depuis les guerres coloniales jusqu'à aujourd'hui. Et avec une thèse centrale qui est de dire qu'en gros, sur le terrain colonial et contre le corps du colonisé, l'armée française a inventé une technologie de contrôle, de surveillance et de répression qui a largement influencé les classes dirigeantes pendant les 7 années où ça a été une doctrine de terreur d'État, une doctrine d'État de 1953 à 1960. Et en gros, les historiens qui bossaient là-dessus s'accordaient sur le fait qu'après son interdiction en 1960, elle n'avait donc plus aucune influence. Or, un certain nombre de travaux montraient que l'utilisation de toute une série de dispositifs issus de cette doctrine dans le précaré africain pendant les années 60-70, avec l'histoire du Rwanda et de la décennie noire en Algérie, on s'est rendu compte que ces doctrines avaient aussi persisté dans sur d'autres terrains. Et donc, en gros, mon travail consiste à essayer de montrer que ces doctrines de guerre dans la population ont bien eu une influence sur la transformation du modèle de contrôle social et qu'en gros, on peut observer ce mécanisme-là sur de nombreux terrains où des États se sont engagés dans des guerres dans la population et où on voit, notamment pour l'Amérique latine, qu'à la sortie de ces respirations historiques, ils ont monté des modèles de sécurité nationale qui sont aussi fondateurs de ce qu'on appelle l'ordre sécuritaire aujourd'hui. Alors pour revenir un petit peu sur la naissance de ce travail-là, moi j'ai grandi à Gennevilliers et j'ai commencé à travailler en maîtrise sur la manière dont les médias dominants représente la catégorie immigration maghrébine. En fait, avec une hypothèse qui était de dire que dans la manière dont on fabrique des figures de l'autre, on produit toute une série de discours sur qui sommes-nous, qu'est-ce qui est à nous, la propriété, qui sont les autres, l'altérité, ce qu'il faut défendre, ce qui menace, etc. Et donc, en gros, que les médias dominants, en produisant des images sur l'autre, en créant une catégorie, à travers la catégorie immigration maghrébine, par exemple, ou immigration en général, finalement, ils développaient toute une série de discours qui permettaient de maintenir l'ordre. Et c'est un peu la question qui organise mes travaux depuis, c'est-à-dire comment ça tient. C'est-à-dire, comment se fait-il que dans des sociétés qui sont organisées autour de la domination économique, politique, sociale d'une minorité sur la majorité, comment est-ce possible que ça tienne? Alors, l'hypothèse de base des gens qui travaillent sur ces problématiques-là, c'est de dire que c'est d'étudier la manière dont on légitime le pouvoir. C'est-à-dire, comment avec des mots, des imaginaires, avec des dispositifs, on fait accepter la contention et comment on fait participer à tout ça. Et en gros, la naissance de la thèse, ça s'est fait à un moment où se posait la question postcoloniale en France et où, en gros, on se disait, bon, il est clair que dans la manière dont la police intervient sur des émeutes, par exemple, sur les quartiers, ils partagent quelque chose de très précis avec les médias. C'est-à-dire que ce soit dans la manière dont les médias représentent le quartier, l'immigration, en amont de la répression, et dans la manière dont ils vont représenter l'émeute, la répression, qu'il y a une articulation très précise entre les discours médiatiques sur le quartier, sur les autres, sur l'ennemi intérieur, etc., et sur la manière d'intervenir de la police. Alors, quand on prend ça en compte, on est obligé de dépasser la question de la culture postcoloniale. C'est-à-dire que moi, jusque-là, j'avais travaillé donc sur la persistance d'une culture coloniale dans les représentations dominantes aujourd'hui. Et donc, en gros, quand on observe cette articulation entre les méthodes policières et les discours médiatiques, au début, on a tendance à se dire, bon, c'est tous des racistes, et ils partagent tous un impensé raciste, colonial, etc., sauf que ça ne suffit pas, surtout quand on observe la précision de cette articulation dans les méthodes de répression. Et donc l'hypothèse suivante, c'était de dire qu'au-delà d'une culture coloniale ou postcoloniale, il y avait le partage d'une technique, que, en gros, le maintien de l'ordre pouvait être envisagé à travers des technologies, et que ces technologies étaient à la fois des technologies policières et médiatiques. Et donc le fil rouge de la thèse, c'était de savoir un petit peu comment l'armée avait pu commencer à considérer l'immigration comme une menace, parce que tout ce qui intéresse l'armée, et donc à la tête de la Défense nationale, dans les grands instituts d'études sur la sécurité intérieure et extérieure, on s'intéresse à ce qui menace et aux manières de s'en protéger. Et donc au début des années 70, l'objet immigration pénètre dans l'institution militaire donc comme une menace. Ça, c'était la question de base. Et donc ça m'a amené à travailler sur l'évolution des technologies de contrôle, de surveillance, de répression, l'évolution de ces doctrines-là, pour voir un petit peu comment l'armée se représentait l'ennemi intérieur depuis les guerres coloniales jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il y a une doctrine qui revient sous différents termes, alors qu'on va appeler la contre-insurrection, la guerre anti-subversive, des fois c'est simplement évoqué à travers guerre dans la population, ou même maintenant, dans les grandes revues, quand on vous parle des affaires politico-militaires, ça veut dire ça. Ça veut dire gestion militarisée des populations. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre l'Indochine et l'Algérie, l'armée française a expérimenté quelque chose qu'on peut considérer comme une révolution technologique dans l'histoire du contrôle des êtres humains, qui s'appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire. Ça systématise toute une série de dispositifs, de principes, de techniques qui existaient avant, de manière éparpillée, l'infiltration, le retournement, la terreur, la ruse, des choses comme ça qui existent, les camps, les disparitions, mais qui vont être systématisées. Comment ça se passe? C'est lié à deux facteurs. La nature du terrain colonial français, qui est différent du terrain colonial britannique. Et en gros, pour l'Indochine et l'Algérie, qui sont quand même deux bons exemples de ça, c'est des terrains où en permanence on peut expérimenter une gestion militaire des populations. Que ce soit en Algérie ou en Indochine, on a assisté pendant des dizaines d'années à des formes de gouvernement militaire, et donc avec des formes de répression militaire permanente. C'est-à-dire que là, la question de l'exception n'a rien à voir avec ça, si ce n'est que c'est des territoires d'exception permanente, sauf qu'ils existent en permanence dans le modèle républicain. Donc la question de l'exception ne veut pas dire grand-chose. Donc, nature du terrain colonial français qui produit, qui fabrique, contre le corps du colonisé, toute une série de techniques de surveillance, de coercition. L'autre facteur, c'est la guerre froide. C'est-à-dire que le discours de l'armée à cette époque-là, devant l'OTAN ou devant le gouvernement, pour légitimer les pratiques qu'elle met en place contre l'insurrection anticolonialiste, va dire, voilà, si on perd les colonies, ça va rompre l'axe Paris-Brazzaville, la colonne vertébrale de l'Empire français. Et donc si l'Empire français tombe, à terme, c'est l'Occident, le monde libre, etc. Et en fait, on se rend compte que ce discours qui vise à dire derrière les insoumissions aux colonies, il y a Moscou, on le trouve en fait, disons, on commence à en trouver des exemples dès 1919-1920, c'est-à-dire que bon, la guerre froide commence très tôt. Mais en 1947-1948, les grandes grèves ouvrières ou Madagascar sont déjà dans l'armée traitées comme des manipulations soviétiques et donc réprimer ces populations-là, enfin ces populations, c'est un terme militaire pour le coup, relève de la protection du monde libre contre la guerre nucléaire, etc. Ce qui va se passer en Indochine, et je vais essayer de vous décrire rapidement la doctrine et après d'avancer un petit peu. Donc, on considère que, en reprenant à Mao l'idée que le guérillero est dans la population comme un poisson dans l'eau, l'armée française va dire qu'il faut inverser ce principe-là. De toute façon, tous les moyens sont bons, puisque la fin, c'est la lutte contre le communisme. On va retourner ce principe-là pour aller chercher le poisson. Et l'armée française va systématiser 4 manières d'aller chercher le poisson. Et c'est cette systématisation-là qui va être révolutionnaire et qui va intéresser toutes les armées du monde à ce moment-là. Alors, la première, ça va être l'histoire du harpon. À l'époque, on ne parle pas de harpon, mais maintenant, dans les forces spéciales, on utilise ce terme-là. Le harpon, donc, c'est les forces spéciales. C'est l'utilisation de groupes semi-officiels pour l'action desquels on n'a pas de compte à rendre et qui vont permettre d'aller assassiner quelqu'un, faire disparaître, brûler un village, attribuer ça à l'ennemi, etc. C'est le harpon. La deuxième manière d'attraper ce poisson, c'est le filet, le quadrillage. Le quadrillage, c'est en 2 phases. Il y a du quadrillage dans les bureaux. On fait des fiches sur tout le monde. Il n'y a pas l'informatique à l'époque. On note les relations sociales entre les gens, leurs connaissances, leurs habitudes, etc. Et puis, il y a un quadrillage sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va poster des groupes de policiers ou de militaires sur la ville, le village ou sur une région géographique au niveau de la circulation pour empêcher la circulation, pour démembrer le corps social et puis pour contrôler l'identité des personnes. Voilà. La troisième technique, c'est la contamination, contaminer l'eau. Donc, c'est l'utilisation de tous les dispositifs d'action psychologique et de propagande, qui sont des choses qui existent bien avant, enfin qui existent partout où on trouve des États ou des formes d'autorité centralisées. Bon, là, ça se technicise à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on utilise du largage de tracts, des radios, etc. Et puis, bon, ça passe aussi par l'infiltration, par la rumeur, des choses comme ça. Et alors la dernière technique qui vient parfaire ce système-là, qui va rendre l'armée française assez célèbre, c'est l'idée qu'on peut vider l'eau. Et alors vider l'eau, ça veut dire vider une population d'un territoire. Et ça suppose des infrastructures, ça veut dire qu'on arrive avec des camions, qu'il y a des camions prêts pour ça, qu'on va chercher les gens, qu'on les attrape, qu'on les enferme, qu'on les déplace. Pour les déplacer, il faut les mettre quelque part, donc ça suppose l'ouverture de camps d'internement. Et quand on est, enfin, dans le cas de l'Indochine ou de l'Algérie, c'est des choses massives, c'est-à-dire qu'il faut une industrie du camp. Une fois qu'ils sont dedans, il faut obtenir le renseignement, avec un R majuscule dans les archives militaires. Le renseignement, ça veut dire la torture. Et donc là aussi, une torture industrielle, c'est-à-dire la torture existe sous la plupart des États. Là, on passe à de la torture industrielle. Et ça ouvre encore sur de nouveaux dispositifs, c'est-à-dire que quand on a torturé de manière industrielle une population, il y en a une partie qu'il faut faire disparaître, parce que même s'ils n'étaient pas du côté de la guérilla, en les relâchant, il y a de grandes chances qu'ils y aillent. Et donc une industrie de la disparition, c'est-à-dire des fosses communes, avoir des hélicoptères à disposition pour aller balancer les corps en mer ou dans les fleuves, etc. Bon, au retour d'Indochine... Bon, les doctrines classiques françaises sont complètement dévalorisées puisque bon, l'armée française a perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle vient de perdre en Indochine à Dien Bien Phu, et donc des officiers qui reviennent avec toutes ces techniques là disent bon voilà, il nous faut une nouvelle doctrine, nous elle est là, officialisons-la. Et ça se passe en quelques semaines, si on regarde le parcours de Lachauroy, qui est un peu le symbole de ces doctrinaires, il va arriver à la tête de l'état-major en quelques semaines. En Algérie, on va finir d'expérimenter cette chose-là et d'en faire une vitrine. Dans cette doctrine-là, il y a un point qui est clair aussi, c'est la revendication en permanence de l'armée qu'on lui donne les moyens juridiques de pacifier, c'est-à-dire d'ouvrir, là pour le coup, des espaces d'exception dans le droit, mais qui vont devenir des espaces d'exception permanente. C'est-à-dire que, là, pareil, encore une fois, la notion d'exception ne veut plus dire grand-chose. Bon, donc va y avoir la création du décret d'état d'urgence en avril 55, qui va être appliqué directement en Algérie, et donc, dont vous vous en souvenez, qui a été appliqué pendant les révoltes en 2005. Le décret d'état d'urgence permet de faire la guerre à sa population sur une partie du territoire sans mettre l'ensemble du pays, de l'économie en guerre. C'est-à-dire que c'est en gros un dispositif juridique qui permet de faire la guerre intérieure à une partie de la population et il est appliqué directement en Algérie. L'année suivante, l'armée obtient les pouvoirs spéciaux, le PC vote ça aussi. Et donc on va pouvoir utiliser, alors la vitrine absolue de l'utilisation de cette doctrine, c'est la bataille d'Alger de janvier à septembre 57, où en gros le FLN, tous les cadres du FLN sont attrapés, disons, ou disparus en quelques mois. Alors c'est présenté comme une victoire, sauf que bon, un an plus tard, le FLN s'est reconstitué dans Alger, donc il s'agit bien de montrer que c'est des techniques qui marchent d'un certain point de vue, enfin d'un point de vue à court terme militaire, que c'est aussi des trucs qui dysfonctionnent largement, puisqu'en fait c'est des doctrines de terreur d'État, et donc quand on diffuse de la terreur dans le peuple se laisse jamais faire. La bataille d'Alger va constituer, avec le DPU, le dispositif de protection urbain, le modèle de cette doctrine systématisée. Dès le début des années 50, on a commencé à former la plupart des armées alliées à cette doctrine-là. Il y a des militaires qui viennent s'y former, mais aussi qui commencent à donner des cours. Donc on le voit très bien en Amérique latine, et où, par exemple au Brésil, en 1964, l'armée prend le pouvoir en utilisant des structures comparables à celles qui avaient été mises en place pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des 5e bureaux d'action psychologique, mais aussi en ayant formé une partie de ses troupes à ces doctrines-là, se l'étant appropriées. Et qu'en gros, la dictature va s'organiser autour d'une chasse à l'ennemi intérieur communiste permanente. On va retrouver ça au Chili, on va retrouver ça en Argentine, etc. L'armée américaine s'en est saisie aussi. Elle va l'utiliser à la suite des Français au Vietnam et directement à l'intérieur contre le Black Panther Party à travers un plan qui s'appelle le COINTELPRO, Counter Intelligence Program. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de division comme en France, où en France elle est interdite en 1960 et où elle va rejaillir. C'est mon travail d'essayer de montrer comment elle a rejailli à partir de 1968 et finalement comment elle a été complètement réhabilitée à partir de 1995. Aux États-Unis, il n'y a pas. Elle n'a pas été interdite et il n'y a pas de parenthèse entre les deux. C'est-à-dire que directement, on l'utilise à l'intérieur. Et il n'y a aucun tabou là-dessus. Aujourd'hui, les Américains, donc, ils sont toujours très très fiers d'avoir rénové cette doctrine-là, de l'utiliser en Irak et en Afghanistan. Quand ils publient les field manuels, les manuels de contre-insurrection, on les trouve dans le commerce. Ils en sont très fiers. En France, il y a un énorme tabou là-dessus. Il y a un énorme tabou là-dessus parce que cette doctrine-là a permis notamment à De Gaulle d'arriver au pouvoir en 58, c'est-à-dire que la partie de l'armée qui fait un coup d'État à Alger et qui impose au Conseil de rappeler De Gaulle, et avec le droit d'avoir les pleins pouvoirs pendant 6 mois et de transformer la Constitution, s'appuie sur les 5e bureaux psychologiques, d'action psychologique, et sur cette doctrine-là. Ce qui ne fait pas très propre, mais ce n'est pas vraiment ça le problème. En fait, le problème, c'est que la partie de l'armée qui considère qu'on ne peut pas lâcher l'Algérie et qu'en tout cas, on peut conserver l'Algérie en utilisant encore cette doctrine-là, va se retourner contre De Gaulle et va essayer de le destituer à plusieurs reprises, de l'assassiner ou de faire des coups d'État, comme en janvier 60 et en avril 61. Bon, ce qui fait que le pouvoir considère qu'il faut abolir cette doctrine officiellement. Ce qui se passe, c'est que pour le précaré africain, on n'arrête jamais de s'en servir. Dès 61, cette doctrine-là est appliquée au Cameroun. Ça donnera le génocide des Bamileke. Et en gros, les deux, j'allais dire dérives, mais ce n'est pas des dérives parce que c'est contenu dans cette doctrine. Quand on pousse cette doctrine à fond, on se rend compte, donc, dès la guerre d'Algérie, qu'elle confine à la dictature militaire et à la militarisation de la société. L'Amérique latine le confirme. Et la deuxième tendance, c'est le génocide ou le sociocide. Pour l'Argentine, on a plutôt tendance à parler de sociocide. Il y a 30 000 disparus en Argentine avec l'utilisation de doctrines de ce type-là. Voilà, mon travail consiste à montrer comment, dans l'après 68, on a rouvert ce répertoire et comment les classes dirigeantes qui s'y étaient formées, finalement, ont, en créant les premiers dispositifs sécuritaires, ont tenté d'appliquer ces dispositifs qui visaient à immuniser des populations, sous-entendu colonisées, comment on va essayer d'immuniser la population. Et c'est tout le passage du post-68 et la création du sécuritaire, de l'ordre médiatico-sécuritaire, c'est l'application, la tentative d'appliquer des doctrines de guerre dans la population en permanence contre le mythe, l'objet mythologique qu'est la population. Parce qu'en vérité, dans la manière dont ça se pratique, ce n'est pas la population qui est toujours touchée de la même manière. On le voit très bien, on voit très bien sur les quartiers la manière dont... Enfin, c'est des dispositifs qui sont censés protéger la population contre le terrorisme, contre les violences urbaines, etc., s'appliquent jamais de la même manière. Pendant le mouvement anti-CPE, la police réprimait pas du tout de la même manière les mouvements lycéens et étudiants dans Paris et les lycéens sur Saint-Denis. Il y a des quantums de violence qui sont totalement différents. C'est lié à l'imaginaire des policiers qui sévissent dans la rue, etc. Bon, bref, en tout cas, d'un point de vue imaginaire, il s'agit de s'attacher à la population et à l'immunisation de la population. Et donc ça va se passer notamment aussi par la diffusion de ce qu'ils appellent l'esprit de défense et de sécurité. En gros, il s'agit de continuer de former de plus en plus de ce qu'ils appellent les cadres de la nation à la bonne pensée, la pensée immunisée, la pensée purifiée face à la subversion, c'est-à-dire une pensée militaire. Et donc on va développer de plus en plus d'instituts, de cercles de réflexion. Moi, mon travail se base sur les archives de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, qui conservaient à l'intérieur d'écoles militaires et qu'ils n'ont pas pris le temps d'envoyer à Vincennes pour que ce soit classifié. Et en gros, ces instituts-là fonctionnent en considérant que la nation existe, que c'est quelque chose de concret, et qu'on peut la comparer à un corps. Donc c'est très proche de la philosophie hobbesienne. En gros, la nation est un corps, l'État sa tête, l'armée son bras armé, et tous les problèmes à l'intérieur sont des virus. Pour immuniser le corps national, il faut donc diffuser une pensée immunisée, et ça passe donc par des cadres de la nation qu'il faudrait former à cette pensée-là, et qui vont la diffuser après en retournant dans leurs institutions, dans leur milieu, et transmettre à la population cette bonne pensée, cette pensée qui va lui permettre de participer au contrôle. Et finalement, c'est un peu ça aussi la ligne rouge de ce bouquin et de cette thèse, c'est la question de la sous-traitance. C'est-à-dire que cette doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, elle a offert un répertoire pour amener la population à participer au contrôle. C'est-à-dire qu'on a pris conscience, à travers toute une série de techniques et une industrie déjà médiatique, en désignant les figures de l'ennemi intérieur et d'un ennemi intérieur socio-ethnique, c'est-à-dire à la fois un mélange entre les pauvres, les révolutionnaires et les étrangers, qu'en diffusant des images de ce type-là, on allait séparer la population et imposer à ceux qui sont en opposition à travers l'utilisation de la terreur, de la peur, de la ruse, lui imposer de se soumettre, et que la partie qui jouait le jeu, la partie de la population qui jouait le jeu silencieusement, elle va se resserrer autour du souverain. Dans les doctrines de guerre dans la population, il y a clairement cette question-là. Produire de l'autocontrôle, c'est-à-dire avec de la peur, de la ruse et de la surveillance, et en montrant la surveillance, en montrant la répression, on va ouvrir un cercle d'autoproduction, de sous-traitance, de participation à la surveillance, à la répression, à la coercition. Comment ça va se passer ? Ça se passe dans les années 70, très clairement, avec l'émergence du discours identitaire. Une série de coalitions de nostalgiques de Vichy, de nostalgiques de l'Algérie française et d'une nouvelle extrême droite qui se forme à cette époque-là va créer le discours identitaire et rajouter à la xénophobie d'État habituelle. La xénophobie d'État classique, c'est en période de crise, l'étranger vient vous voler votre travail, votre femme, votre pays. Et bien là, le discours identitaire apporte quelque chose de plus. Il va dire, dans le corps même, dans l'essence des étrangers, dans leur culture, il y a les ferments de la déstabilisation. Il y a une subversion culturelle, identitaire. Le travailleur migrant, le migrant, importe avec lui, malgré lui, les germes de la déstabilisation. Et ce discours identitaire va fonctionner en permanence avec... les coalitions qui soutiennent ce discours-là vont fonctionner en permanence avec des coalitions qui militent pour la réouverture du répertoire de la contre-révolution, de la guerre contre-révolutionnaire, et pour la mise en place de dispositifs sécuritaires. C'est-à-dire qu'on le voit dès les années 70 et jusqu'à aujourd'hui, l'ordre sécuritaire, il a deux pieds, il a celui de la répression, surveillance, etc., et celui de la division raciste de la société et de l'entretien de ces compartiments sociaux et symboliques. Du coup, ça, bon, après je vais passer la parole, je vais pas revenir sur les années 80, 90 aujourd'hui, j'espère que vous ferez vous-même les comparaisons. La question est de montrer comment, à travers la mise en place de la lutte anti-migratoire, des machines à expulser, à interner et à pacifier, comment à travers la reconstitution d'une figure de l'ennemi intérieur qui évolue entre le sauvageon de quartier, l'islamo-terroriste, l'anarcho-autonome, etc. Comment toutes ces figures de l'ennemi intérieur permettent de reproduire, de réouvrir des dispositifs qui appartiennent au répertoire de la guerre dans la population et de la contre-révolution. Du coup, j'essaye de montrer sur les trois décennies qui restent comment, dans la répression sur les quartiers populaires, dans la fabrication d'un sous-prolétariat sans papier et sa répression et la médiatisation de sa répression, on a permis de réouvrir toute une série, de réutiliser, de redéployer toute une série de dispositifs qui venaient de la guerre coloniale. Voilà, en gros, ce travail-là vise à montrer aussi que le pouvoir fonctionne un petit peu comme des mécaniques, comme des machines, et jamais comme un monstre tout-puissant, c'est-à-dire que si son discours est de dire... Il y a un général américain qui est devant l'Assemblée nationale, essayait de résumer le sécuritaire et qui parlait du concept au cube, omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc ça, c'est le délire sécuritaire, c'est-à-dire il faudrait tout voir, tout contrôler, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça, et c'est aussi ce qu'essaye de montrer ce travail. C'est-à-dire que dans les montages médiatico-policiers, comme l'affaire de Tarnac, comme les Irlandais de Vincennes, comme l'affaire des islamistes de Follembray ou l'opération Chrysanthème, etc., ça ne fonctionne jamais parfaitement, qu'en tout cas, des fois, ça naît aussi d'une peur de leur part, et qu'on est face à des mécanismes, à des outils de contrôle, de surveillance, etc., avec des outils, des mécanismes, des machines, ça fonctionne parce que ça dysfonctionne aussi. Donc on peut comprendre leur dysfonctionnement, et qu'en tout cas, on a perdu d'avance si on considère que c'est des monstres tout-puissants, parce que finalement, on participe à ce jeu de sous-traitance. C'est-à-dire que si on commence à avoir peur de ces machines-là, on a commencé à perdre, parce que c'est leur fonction principale, de produire de l'autosuggestion. Produit de l'autosuggestion, de l'autosoumission, et après, de la participation. Donc voilà, montrer qu'on n'est pas face à un monstre, qu'on est face à des machines, différentes machines qui sont des fois mal articulées entre elles, qui sont utilisées parfois n'importe comment, et donc on peut faire dysfonctionner. Voilà, je vous remercie.
Qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier. C'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. vivre et de vivre laisse dans le présent de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chants OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de cris ça ils s'entourent. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour, tant de grâce à bord ancêtres.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple,
l'ébullition. La rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution.
Arrache
du peuple, arrache du peuple. Arrache du peuple, arrache du peuple. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle fait la populace. Et la rage est énorme.
Maintenant, on va écouter une deuxième intervention, cette fois-ci de Monsieur Maurice Rachfus, qui va nous rejoindre tout de suite.
Je suis très honoré d'avoir été appelé monsieur, mais j'ai pas mérité ça. On a le sentiment d'être de plus en plus sous haute surveillance. C'est pas encore 1984, tel que l'a décrit George Orwell. On n'a pas encore chez soi le télécran qui surveille tous les instants de votre vie, où il n'y a pratiquement pas d'angle mort pour échapper au regard de Big Brother, mais on y va tout doucement, par d'autres moyens. Je ne parlerai pas des caméras de vidéosurveillance dont il est question de multiplier le nombre ces temps-ci, mais je voudrais vous parler du fichage. Je voudrais m'excuser auprès d'un certain nombre d'entre vous qui ont peut-être entendu parler de ce sujet, mais je pense qu'on n'en parle jamais suffisamment. Alors le fichage, c'est très simple et très compliqué à la fois. C'est une vieille tentation des régimes totalitaires de ficher la population, en tout cas certains segments de la population. Déjà, dès qu'il y a eu une police d'État digne de ce nom, avec Fouché, ministre de la police, il y avait eu le projet suggéré par Fouché à Bonaparte, premier consul, de ficher l'intégralité de la population. Bon, c'était un projet fou qui ne s'est jamais fait, qui était irréalisable, mais au fil du temps, particulièrement après la Commune de Paris, les institutions policières ont commencé à ficher sévèrement, et les communards, bon, il n'y en a pas eu tellement de fichés parce que beaucoup ont été tués, déportés, tout s'était connu. À partir de 1914, on a fiché les insoumis. Dans les années 20, on a fiché les opposants en France à la guerre du Rif. Mais tout ça était laborieux, besogneux. Ça se passait sur des fiches. Et le grand progrès de ce qui précédait l'informatique, c'était la fiche perforée, où on triait les personnes à l'aide d'une aiguille à tricoter dans les trous des fiches, c'était le premier instrument informatique, l'aiguille à tricoter. Bon, du coup, ça s'est beaucoup amélioré. Alors, à cette période-là, si on affichait 40 millions de Français, la police ne pouvait pas faire un usage tellement spécifique ni utilitaire. Avec le développement de l'informatique, en quelques clics, on peut segmenter l'ensemble d'une population par genre, par religion, par statut social, et c'est devenu effectivement quelque chose d'assez terrifiant. Alors, on bénéficie, si on peut dire, d'une cinquantaine de fichiers de police plus ou moins répertoriés, plus les fichiers qu'on ne connaît pas. Alors, parmi les fichiers les plus importants dans notre société plus ou moins démocratique, il y a le fichier des empreintes digitales, qui est fichier automatisé, le FNAEG. Il y a le FNAEG, fichier national des empreintes génétiques. Après, je reviendrai à développer tous ces fichiers, peut-être. Il y a le STIC, système de traitement des infractions constatées. Vous avez le JUDEX, qui est un fichier gendarmerie qui est un peu sur le même type, avec un peu moins de monde dedans. Vous avez, curieusement, le fichier des Français nés à l'étranger, comme s'il pouvait y avoir un début de suspicion ou de délit possible quand on était né à l'étranger. Une chose est certaine, c'est que l'un des Français bien connu qui est né à l'étranger, Giscard d'Estaing, il est né à Koblenz, il n'est sûrement pas dans ce fichier. Vous avez le très controversé, difficilement applicable, mais qui menace toujours le fichier bas élèves, contre lequel se battent des syndicats et des enseignants, qui consiste à répertorier les enfants d'immigrés pour mieux piéger les parents. Vous avez le fichier militaire, qui est un fichier signalétique de renseignement qui comporte 60 millions de noms. Vous avez le fichier ardoise, qui est un fichier statistique et opérationnel, qui a été abandonné, mais remplacé, alors là, ça a été toute une histoire, par le fichier Edvige, dont on a beaucoup parlé il y a 2 ans maintenant, qui a été abandonné à la suite d'une pétition rassemblant des centaines de milliers de signatures. Fichier Edvige qui avait pour objet de repérer ceux qui étaient, pas parmi les Français, susceptibles, le mot susceptible est extraordinaire, susceptibles d'être candidats à une élection politique, susceptibles d'être responsables d'une association, susceptibles d'être responsables d'un syndicat, etc. Le fichier Edvige a fini par être abandonné. Il y a eu un pseudopode qui s'appelait Edvirgue, qui n'a pas tellement subsisté. Et maintenant, il y a un autre fichier qui se met en place. Là, les personnes ne sont plus susceptibles, mais potentiellement capables d'être ce qu'on voudrait qu'ils soient. Alors, il y a le fichier Christina. Il y a toujours un très beau nom. Hein. C'est la centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire, qui est classé secret défense. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de savoir ce qu'il y a dedans ni qui est dedans. Et personne ne peut avoir de recours pour savoir qui peut être dans ce fichier. Il y a le fichier Ariane, dont on ne sait rien, mais on sait qu'il existe. Et puis, parmi d'autres fichiers qui sont en place depuis longtemps, mais dont on parle très récemment, il y a le fichier Canonge, qui est un fichier photographique. Et puis, bon, il y a tous les fichiers secondaires des opposants à la guerre d'Algérie, les fichiers des manifestants qu'on peut trouver de ci, de là. Alors, je voudrais revenir sur le fichier le plus gros, hein, le plus massif, c'est le fichier STIC, système de traitement des infractions constatées. C'est un gros machin où il y a environ 27 ou 28 millions de noms. Pourquoi une telle inflation? C'est que dans ce fichier, la police s'est appliquée à répertorier les auteurs de délits, les suspects de délits, les victimes de délits et les témoins. Tout ça est dans la même marmite. Ce qui fait que si un jour vous êtes coincé à un portillon du métro par des policiers sans titre de transport, la première chose que le policier va faire, c'est de regarder si vous êtes dans le stick. peu importe que vous y soyez comme suspect, comme témoin ou comme victime, vous êtes déjà dans le stick. Donc votre cas est aggravé et vous êtes déjà un élément qui correspond un peu à ce que disait Mathieu Rigaud tout à l'heure, correspond un peu à l'ennemi intérieur potentiel. Alors c'est pas nouveau tout ça, c'est si on remonte dans le temps à la Sérénissime République de Venise, si vous allez un jour à Venise, place Saint-Marc, devant le palais des Doges, il y a un trou dans le mur, à un endroit donné, pour mettre les lettres de dénonciation. Ensuite, il y a eu les lettres de cachet. Mais il a fallu du temps pour que tout ça se mette en place et que ça soit sérieusement coordonné. Et j'ai retrouvé dans un livre consacré à Fouché par Stéphane Zweig ce petit texte assez extraordinaire, excusez-moi. Voilà comment Stéphane Zweig dépeint Fouché lorsqu'il faisait être ministre de la police en 1599. Fouché, si vous connaissez quelqu'un, dites-le. Fouché a-t-il depuis 3 mois le pouvoir entre les mains que ses protecteurs s'aperçoivent avec autant d'effroi que de surprise, qu'il exerce une surveillance non seulement en bas mais aussi en haut, que le ministre de la police contrôle les autres ministres, le directoire, les généraux, toutes les politiques, toute la politique. Ses filets s'étendent à tous les emplois, à toutes les charges. Il fait de la politique à côté de la politique. Partout, il étend les limites de son pouvoir. Il se mêle de ce qu'il regarde et de ce qu'il ne regarde pas. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que ça décrit tout à fait le rôle d'un ministre de la police. On a vu ça avec Marcellin dans les années 70. On l'a vu avec Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. C'est que les ministres qu'on peut qualifier ministres de la police se mêlent effectivement de tout. On a vu Marcellin se mêler de l'éducation nationale. On a vu Sarkozy se mêler de culture. Le ministre de la police veut avoir le regard et la main sur tout ce qui est dans le pays. Peut-être, l'objet de dérapage par rapport aux institutions qu'il contrôle. Alors, le fichier, il est redoutable dans la mesure où chacun d'entre nous peut être coincé sans savoir ni pourquoi, ni comment, mais ça met en jeu les libertés publiques de la manière la plus dure qui soit. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, mais récemment, j'étais un procès de faucheurs d'OGM à Orléans. Et les gars m'avaient demandé de venir témoigner en leur faveur. Ils n'étaient pas jugés pour avoir fauché les OGM, ils étaient jugés pour avoir refusé le prélèvement ADN. Ça peut valoir 3 ans de prison de refuser le prélèvement ADN. Et donc j'arrive à la barre, et le président me demande, vous êtes là, quel titre ? Alors j'ai dit, écoutez, à l'âge de 14 ans, plutôt même à l'âge de 12 ans, j'ai été fiché, à l'insu de mon plein gré, comme on dit. Et puis à la suite de ce fichage, j'ai reçu une décoration, 2 ans plus tard. Alors le président me regarde un peu interloqué. Alors j'ai dit, oui, vous voyez, après avoir été fiché, on m'a délivré ça. C'est l'étoile jaune. Eh bien, bien sûr que ce type d'insigne ou de titre représentatif, c'est du passé, ça ne se reproduira pas. Mais actuellement, au-delà des fichiers, quand un policier, on le voit souvent dans les transports en commun, voit une personne un peu moins blanche qui ne peut le supporter, que ce soit un Nord-Africain, un Africain, quelqu'un du Moyen-Orient ou un Asiatique, eh bien, tout de suite, il plonge sur la victime. Donc, le fichier ne fait que compléter un contrôle social sur les biens blancs. Pour les autres, c'est beaucoup plus facile et beaucoup, beaucoup plus meurtrier. Alors, on vit dans ce système. Il faut en être, bien convaincu. Il faut savoir que à tous les instants de notre existence, on est, on est sous contrôle et que on ne doit pas plutôt se contenter de dénoncer le système. Il faut expliquer ce qu'il représente. Hein. Alors j'ai oublié quelques fichiers, entre autres le fichier Éloi, qui est un fichier assez abominable, qui avait été mis en place pour contrôler les personnes qui visitaient ceux des sans-papiers qui sont internés dans les centres de rétention administrative. Donc, il y avait un contrôle permanent, ça a été plus ou moins abandonné quand même, sur le nombre de visites, sur qui visitait, pourquoi on visitait. Finalement, la personne qui visitait un sans-papier devenait suspecte. Mais dans le même temps, on sait qu'il y a maintenant des lois, quoi qu'en dise M. Éric Judas-Besson, qui répriment la solidarité avec les sans-papiers, et quiconque est solidaire avec qui que ce soit, et particulièrement avec ces personnes-là, sont également fichés. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, peut-être qu'on y reviendra dans le débat tout à l'heure. Alors, il y a eu des petits derniers qui ont été mis en place récemment parmi les fichiers. Il y a le fichier des personnes recherchées. Et, comment dire, quant à la durée de vie de ces fichiers, on nous dit que ça peut être effacé en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En fait, certains fichiers peuvent durer 25 ans et peut-être n'être jamais effacés du tout. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous signaler que parmi les fichiers, l'étranger est toujours l'ennemi intérieur recherché, comme le disait Mathieu Rigouste. Il y avait à la fin du siècle dernier un fichier mensuel qui était édité pour repérer les anarchistes étrangers qui séjournaient illégalement en France. Ça figure aux archives de France, c'est tout à fait édifiant. Les personnes sont décrites dans les détails les plus intimes. Et c'est un document, je ne sais pas si j'en ai un extrait ici. J'avais retrouvé dans un des numéros qui datait du début du XXe siècle, où j'avais retrouvé Malatesta, j'avais retrouvé des gens comme ça. Alors, un fichier, bon, c'est le fichier tristement exemplaire, et ça complète un peu l'étoile dont je vous parlais tout à l'heure. En octobre 1940, la Gestapo demande à la police française, qui ne refuse pas le travail, de ficher les Juifs de la zone occupée. Ils vont ficher des dizaines de milliers de personnes qui, finalement, se verront à la suite du fichage attribuer un tampon juif sur la carte d'identité. Et ce fichier permettra les rafles de 41, 42, 43 et 44. Voilà, écoutez, pour l'instant, on en reste là. Et puis, je vous donnerai peut-être d'autres précisions tout à l'heure. Merci.
N'avez-vous pas de mémoire? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendants de fringués chics présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et les slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. Non, sont-elles rien qui vous défectent ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau, qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeaux, tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays, où sans honte des cyniques arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient, où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
Il sera peut-être temps de démarrer un débat avec le public, après ces deux interventions donc de Mathieu Rigouste et de Maurice Rachfus. Voilà, si vous avez des questions à poser à l'un et à l'autre, voilà, n'hésitez pas, on va faire tourner un micro, et Mathieu Rigouste pourra peut-être nous rejoindre sur l'estrade pour répondre avec Maurice Rachfus selon la nature des questions.
Moi, c'est simplement pour rajouter à ce qu'a dit Maurice Rachfus sur les caméras qui triplent. Je ne vais pas être long, je fais partie du collectif Souriez, vous êtes filmé, et on se bat depuis un an par rapport au plan de 1200 caméras qui vont être discutées le week-end prochain au Conseil de Paris. Alors, je sais pas, on a l'impression de vivre dans un état policier. C'est vrai que jusqu'à présent... les caméras se développaient par mairie, mais pour la première fois, donc depuis 2 ans, Hortefeux et Sarkozy et Michel Alomari ont décidé que ça serait plus local, mais qu'il y aurait vraiment un plan d'État pour quadriller la France, le territoire, quoi. Et jusqu'à présent, en Paris, il n'y avait que 350 caméras qui étaient sur les grands axes routiers ou les axes de manif, mais par rapport à une ville comme Londres, ou même des villes comme Lyon ou Marseille, Paris était une ville relativement libre au niveau de l'espace public. Eh bien, on peut pratiquement dire adieu à ça, puisque donc lundi prochain, au Conseil de Paris, va être voté le plan qui entérine cette installation de 1200 caméras. C'est une production de la préfecture, avec maintenant l'accord de la majorité municipale. Alors, je ne vais pas être long, simplement, ça fait un an qu'on se bat dessus. On a fait signer 8500, on ne va pas grossir les chiffres à tout prix, 8500 personnes. On a interrompu plusieurs conseils d'arrondissement. Il y avait une petite action aujourd'hui dans le 5e. On a multiplié les initiatives. On s'est retrouvé à une centaine devant l'hôtel de ville il y a 15 jours. Mais là, franchement, si lundi... vous n'avez rien à faire. Au moment du vote à la mairie de Paris, si vous pouvez être à 18h30 devant l'hôtel de ville, ça peut être pas mal de montrer qu'on n'accepte pas le fait accompli. On aura sans doute d'autres initiatives après, en particulier au mois de janvier, une réunion publique qu'on espère la plus large possible. Mais c'est quand même au moment des décisions, c'est bien d'être là. Et pour terminer, parce que je ne veux pas excuser le débat sur les technologies de surveillance, vous êtes invité ici même, jeudi prochain, avec pièces et main d'œuvre sur les nanotechnologies, parce qu'il y a une mobilisation en ce moment en France par rapport à une campagne de promotion des petites puces qui a commencé, qui est sur 12 villes. À Strasbourg, les gens ont déjà interrompu le spectacle en montant sur scène avec une banderole. La semaine dernière, c'est à Lille qu'il y a 60 personnes qui ont foutu le souk dans cette entreprise de promotion des puces technologiques. On espère que sur Paris, il y aura la même mobilisation. Voilà ces deux rendez-vous qu'on vous donne, lundi devant l'hôtel de ville et jeudi pour discuter avec pièces et main d'œuvre ici.
Merci. D'autres des questions? Moi, j'en aurais une à vous poser à tous les deux. C'est une question concernant justement les fichiers. Est-ce que la nature, l'ampleur et la multiplicité des fichiers de surveillance les court-circuitent pas finalement. C'est-à-dire que on sait qu'un fichier réclame des moyens pour être exploité. Et leur multiplication et l'ampleur, pour certains d'entre eux qui regroupent des millions de références, est-ce que ça les annule pas finalement ?
Non, je ne crois pas. Avec les avancées de l'informatique, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais il y a le côté pervers. Je parlais du stick tout à l'heure. Normalement, ces fichiers doivent être strictement consultés par des policiers sur demande du procureur. Eh bien, on s'est aperçu ces dernières années, particulièrement à Nice, que des chefs d'entreprise qui voulaient embaucher des cadres demandaient à leurs amis policiers de consulter le stick si le cadre en question n'était pas fiché. Bon, il y a aussi le problème des fichiers croisés avec les comptes bancaires, avec la Sécu, avec bientôt... une infirmière récemment... Au Mans, on m'avait dit qu'on recensait un certain type de maladies, enfin de patients, que les entreprises ne voulaient pas embaucher. Et je crois que tout ça, il y a surtout les fichiers qu'on ne connaît pas. Ceux qu'on connaît, on peut essayer de savoir ce qu'il y a dedans, de savoir comment on peut les contourner, mais ceux dont on ne connaît pas l'existence ni le contenu, on ne peut rien y faire. Quant à savoir ce qu'il y a dans ce fichier, il est possible, on est dans un pays démocratique, de demander à la CNIL de connaître le contenu de son fichier. Alors, on fait la demande, on vous dit tout à fait, bien sûr, vous aurez tout ça, mais il y a tellement de demandes qu'il y a un temps d'attente très long, et on ne sait pas ce qui va être retiré de ce qu'on va vous dire dans le fichier.
Ouais, moi, je dirais à peu près pareil, ça ne les court-circuite pas. Après, ce n'est pas pour autant que ça fonctionne parfaitement, dans le sens où... Les fichiers ne sont pas forcément toujours croisés, c'est-à-dire votre nom peut être dans un fichier de police et se faire serrer par la douane sans que ça se voit. Et ça, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que quand ça fonctionne, ça dysfonctionne aussi parce qu'on est face à des agents humains, etc. Mais en tout cas, ça ne les court-circuite pas. Par contre, du point de vue de la surveillance, là, il y a quelque chose où il y a des rapports d'instituts d'études en sécurité aux États-Unis qui disent que ça ne fonctionne pas, etc. Alors ça n'a pas l'air de tellement troubler le débat, mais en l'occurrence, là il y a un problème de gestion de la surveillance. Par exemple, en 2004 à Londres, pour essayer de retrouver un poseur de bombes dans le métro, ils ont dû employer une quarantaine de personnes pendant un mois. Pour tout visionner, finalement ils ont trouvé un type qui s'avérait pas être celui qu'ils auraient voulu désigner. De ce point de vue là ça marche pas forcément parfaitement, mais parce qu'en l'occurrence dans ces dispositifs il y a un principe de base, c'est de montrer la surveillance pour produire l'autocontrôle. C'est pour ça qu'on trouve par exemple des productions maintenant de fausses caméras qui sont parce que la première fonction de la caméra est de te dire que t'es contrôlé. Pour les fichiers, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va annoncer à grands coups médiatiques la création d'Edwige. On va en parler, c'est-à-dire que ce n'est pas caché. Mais Christina, non. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers qui vont fonctionner réellement. Enfin, Christina a été dénoncée parce qu'il y a des groupes militants, etc., qui en ont parlé, mais médiatiquement. Par contre, Edwige, on ne s'en est pas caché parce que la première fonction de ce dispositif-là est de vous dire « Hey, on vous surveille, vous êtes parfaitement fiché, etc., on sait tout, etc., donc ne jouez pas au plus malin ». Mais il y a vraiment cette dimension-là, et on le voit bien entre Edwige et Christina, ou après Poitiers, là, les deux nouveaux fichiers qui ont été annoncés. Je pense qu'il y a un lien très précis entre la manière dont la répression dont ça s'est organisé médiatiquement autour de ce qui s'est passé à Poitiers et le fait d'annoncer. Deux jours après, je crois que c'était deux jours après, la constitution de fichiers qui, de toute façon, n'ont pas été constitués dans les deux jours qu'ont suivi Poitiers. Il y a un dispositif de monstration qui commence avant tout.
Il y a ça. Le pass Navigo, on peut savoir en temps réel ce que vous avez fait. Non pas ce que vous avez fait, mais où vous avez été. À quelle heure vous avez pris le métro. À quelle heure vous avez pris la correspondance. Combien de fois vous avez pris le métro dans la journée pour aller où? C'est un peu le problème des pistes croisées qui ont fait prendre les Corses dans l'affaire de l'assassinat du préfet, où on s'est aperçu non pas, on n'a pas retrouvé le contenu des messages des téléphones portables, mais le fait que tous ces appels allaient au même endroit. Eh bien, avec un pass Navigo, eh bien, on peut essayer, ils peuvent essayer, les policiers, de retrouver des gens qui se retrouvent à un endroit donné, à une heure donnée, régulièrement. C'est-à-dire qu'au-delà des fichiers dits sécuritaires, il y a des fichiers de contrôle qui font partie du contrôle social. Et le pass Navigo, ça, c'en est un.
Alors, on parlait beaucoup de fichiers lors de l'intervention de Maurice Rachfus et ces questions. Peut-être le collectif Mauvaises Intentions pourrait nous rejoindre dans ce débat, puisque c'est un collectif qui a fait récemment un travail justement sur les empreintes ADN et qui pourrait apporter des éléments complémentaires sur certains de ces fichiers qui deviennent extrêmement importants. Et il faut savoir que la prise d'empreintes génétiques, enfin ADN, est devenue presque systématique dans nombre de délits. Et aussi peut-être esquisser des éléments de réponse que nous pourrions avoir face à cette entreprise de contrôle permanente des populations.
Voilà. Alors en fait, comme on avait dit tout à l'heure, après les premières interventions, on va commencer par faire une petite pause pour déjà commencer par digérer tout ça. S'il y a des personnes déjà qui ont des questions ou des idées à soumettre par rapport à ce qui a été dit précédemment. Sinon, je vous propose en fait de reprendre un petit peu plus tard le temps qu'on se prépare et qu'on mette en route le reste du programme.
Bonsoir. Je reviens un peu à la première intervention de Mathieu Rigouste sur un peu toute cette idéologie qu'il a un peu décrit. Moi, ce qui m'interpelle, c'est en quoi... grosso modo, parce que les techniques qu'il a décrites, les nazis les ont utilisées et surmontées dans l'histoire, pas d'une manière peut-être aussi sophistiquée. C'était des techniques, la trame générale, elle y est. Les nazis aussi, ils avaient des fosses communes, ils faisaient aussi des massacres, ils faisaient aussi dans le contrôle social, tout ce qui est décrit, pour moi, ça rejoint... Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, l'articulation, où est la différence? Est-ce que c'est un affinement? Est-ce que c'est un gap technologique qu'à l'époque, les nazis n'avaient pas, nous, technologie qu'on a maintenant? Il y a tout ça un peu qui m'interpelle, quoi. Voilà.
On trouve des choses équivalentes chez les nazis, mais qui ne sont pas systématisées du tout de la même manière. Là, on parle d'une doctrine d'État apparue dans l'armée, c'est-à-dire... des dizaines de documents, des écoles de formation, une idéologie d'État, 7 ans pendant lesquels la manière de faire la guerre à la population dans un État qui n'est pas censé être, qui n'est pas le Troisième Reich. La nouveauté, elle est à la fois dans la rationalisation, dans la technicisation, dans l'industrialisation et dans le fait qu'on est sur du terrain colonial, c'est-à-dire que pour l'Algérie, on est sur des départements français, on fait la guerre à des gens qui ont la nationalité. C'est-à-dire qu'on invente, ce sera fait aussi dans le Troisième Reich, il y a une dissociation raciale qui permet de mettre en place ce contrôle-là. Et on peut tirer des liens, il y en a en plus. C'est-à-dire que le général Delattre et le général Beaufre, qui sont les fondateurs de la doctrine de défense globale, qui est une doctrine qui est toujours la doctrine française, qui était la doctrine qui a été créée un petit peu au début des années 50, il y en a un qui cite Goebbels en disant que leurs techniques d'information et de propagande ont pas mal marché puisqu'ils ont gagné. Et donc, il faut les reprendre. Et on a chez de nombreux auteurs de la doctrine de la défense globale des renvois à Ludendorff. Donc Ludendorff, théoricien de la guerre totale à la fin de la Première Guerre mondiale, qui avait réussi à se faire virer du parti nazi parce qu'il le trouvait trop extrémiste. Et donc voilà. Et alors, la théorie de la guerre totale, c'est ce lien qu'il y a, qu'on retrouve dans la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire et qui fait le lien avec le système nazi. La doctrine de la guerre totale dit effectivement qu'il faut mener la guerre sur les arrières, contrôler l'ensemble des dimensions du social, de la culture. Il faut pénétrer l'ensemble du corps social, l'immuniser totalement tout ça. On a ça dans la guerre totale et les doctrinaires de la défense globale puis de la contre-révolution coloniale vont s'en servir. Mais ce n'est pas les mêmes dispositifs. La preuve étant l'intérêt des armées du monde libre pour l'expérience coloniale française, pour l'expérience de l'Indochine et de l'Algérie. On a ça dans pas mal de textes, notamment des militaires américains à l'époque, nord-américains, qui disent qu'ils ont absolument besoin de l'expérience française en Indochine et en Algérie pour l'appliquer, je le disais tout à l'heure, à la suite au Vietnam et contre le Black Panther Party. Parce qu'on est déjà dans des phénomènes de dispositifs permanents, c'est-à-dire bon, le Troisième Reich pensait durer. Bon, moi, j'ai pas envie de faire la comparaison avec ces deux systèmes différents, et c'est pas exactement les mêmes techniques, c'est pas la même systématisation. Et en l'occurrence, la doctrine de la guerre révolutionnaire dans un État qui était soi-disant pas en guerre, soi-disant démocratique et républicain, etc., est une doctrine qui, à l'intérieur du fonctionnement soi-disant normal d'un État, permet de faire la guerre à une partie de la population racialisée. Bon voilà. Après, on peut comparer tous les systèmes. On peut retrouver de l'action psychologique ou, enfin, je disais, de la propagande, de la terreur d'État dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Il y en a aussi. Et, s'il a vraiment existé, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et donc ça, c'est lié à l'existence d'une autorité centralisée, de classe dominante, d'un proto-État ou d'un État où on va retrouver des techniques de terreur d'État. La doctrine de la guerre révolutionnaire est vraiment un pas en avant en termes aussi d'un point de vue de l'utilisation des médias. C'est-à-dire qu'elle va évoluer avec l'ouverture de la société du spectacle et des industries hypermédiatiques, etc. Et c'est ce qu'on voit notamment dans l'après 68, c'est-à-dire qu'on rouvre le répertoire de la contre-révolution coloniale, mais pour l'articuler avec toute une série de nouvelles techniques qui n'étaient pas possibles avant. Et ça, on l'a dans... Marcelin en parle, le ministre de l'Intérieur qui est nommé pour mener la répression en 68, et dont De Gaulle dit « Ah, enfin, le vrai Fouché !» Et donc lui, qui est un passionné de contre-insurrection, etc., et bon, bah, il a des mots là-dessus en disant « Maintenant, vu que ça va s'appliquer à la population en général, il faut qu'on utilise les outils médiatiques qui vont le permettre, et la télévision va être... » La prise en compte de la télévision dans les archives militaires, c'est assez délirant. On le trouve dans un certain nombre de textes qui disent « Bon, bah, voilà, on est face à un outil qui nous permet de pénétrer dans le quotidien des mentalités de la population, de cet objet, pour y diffuser l'esprit de défense et de sécurité. » Et le caractère médiatique, quand je dis médiatico-sécuritaire, c'est vraiment parce que c'est lié, il faudrait dire médiatico-identitaire, sécuritaire, et il est lié à la nature du terrain colonial. La différence avec le Troisième Reich, alors là, c'est pas mon travail qu'il faut aller lire, c'est La férocité blanche, qui est un livre assez extraordinaire et qui montre... En tout cas, le Troisième Reich s'est appliqué à désigner... Enfin, le scandale autour du Troisième Reich s'est fait autour du fait que, pour la première fois, on portait le génocide à l'intérieur des milieux blancs. Alors, bien sûr, les Noirs, etc., sont passés dans les camps aussi, mais le discours était organisé autour de ça. La nature de la doctrine de la guerre révolutionnaire est que c'est une doctrine de contrôle et de guerre coloniale qui va être appliquée à la population après... Et la manière dont ça a pu être appliqué, c'est lié à la nature du caractère postcolonial de la France aussi. Parce qu'on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas commencé à constituer des espaces où on ghettoise un sous-prolétariat postcolonial issu de la colonisation, etc. C'est-à-dire que c'est lié aussi à une partition de la société. Les Juifs sous le Troisième Reich ne sont pas décolonisés. Bon, voilà.
Juste un petit mot. Mathieu Rius parle de la répression coloniale, mais il y a la répercussion de la répression coloniale en France, et singulièrement au travers de la guerre d'Algérie. On l'a vu avec le 21 octobre 61, avec des centaines de morts, et on le voit au quotidien depuis plus de 40 ans maintenant, c'est que dans le regard des policiers qui opèrent dans les banlieues, face à une jeunesse d'origine maghrébine, pour eux, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Et c'est, un des aspects de la sauvagerie policière dans les banlieues actuelles, parce que, d'une certaine manière, ils prennent la relève des anciens, comme ils disent.
y a une généalogie qui est intéressante là-dessus. Il y a des brigades policières pendant la guerre d'Algérie qui s'occupaient en métropole spécialement de ce qu'ils appelaient les Nord-Africains, parce que donc, même s'ils étaient français, il s'agissait de les distinguer par la catégorie de race. Donc il y en avait plusieurs, il y avait notamment les BSN, les BSNA, les brigades de surveillance des Nord-Africains. Alors c'est des groupes dans lesquels on intégrait beaucoup de gens issus de l'extrême droite, des gens qui revenaient d'Algérie et donc qui étaient censés s'y connaître parfaitement dans les techniques de gestion décolonisées. Des choses qu'on retrouve déjà dès 1848. En 1848, on fait revenir des militaires d'Algérie parce qu'ils sont censés s'y connaître très bien en pacification coloniale, et donc pour les envoyer contre les ouvriers.
Qui traitent de bédouins.
Qu'ils appellent bédouins. Voilà. Et donc on voit le passage très clairement qui se fait. Le champ colonial est un terrain d'expérimentation en permanence, une vitrine et un rouage qui permet aussi de rapporter tout ce qui a été expérimenté sur le corps du colonisé à l'époque sur le corps des ouvriers, etc., mais dans le sécuritaire, sur le corps en général, quoi. Ces brigades de surveillance des Nord-Africains, à la fin de la guerre d'Algérie, elles sont dissoutes. Et on va créer les brigades de surveillance de nuit au début des années 70, justement, donc dans tout le contexte où Marcellin mène la contre-révolution, la nouvelle société, donc une société à la fois néolibérale, mais aussi identitaire. On va créer les brigades de surveillance de nuit. C'est des brigades donc, qui sont censées intervenir sur un milieu de population, considérant que ce milieu de population est particulièrement sujet à la subversion. Alors ça va être les milieux ouvriers, ça va être, je sais pas, les blousons noirs, mais ça va être aussi les quartiers populaires. Dans ces BSN, dans ces brigades de surveillance de nuit, on va réintégrer des anciens d'Algérie, on va réintégrer pas mal de gens d'extrême droite, etc., des gens donc, à qui ça plaît bien. Et ces brigades de surveillance de nuit, au début des années 90, on va les autoriser à intervenir de jour aussi, et ça va s'appeler les BAC, les brigades anticriminalité. C'est-à-dire la permanence de cette manière d'intervenir sur un terrain, en considérant que cette population particulièrement, en la reconnaissant à son faciès, est propice à ces nouvelles menaces qui apparaissent dans les années 70, la délinquance, l'incivilité, etc., qui permettent d'ailleurs d'intervenir pour toutes sortes de choses, et notamment par la provocation. Et ben voilà, ces pratiques-là, il y a une continuité, alors il y a des transformations aussi, mais il y a une continuité dans les institutions, dans les groupes, dans les personnels, dans les agents de la répression, à travers leur mentalité, mais à travers leurs pratiques, leur manière d'intervenir sur le terrain. Non, c'est pas directement les Français, en fait. Il y a des militaires chiliens qui viennent à l'école militaire depuis l'entre-deux-guerres, se former. En fait, c'est les Brésiliens qui sont le plus investis dans la coopération avec les Français. Il y a des Chiliens qui viennent aussi, sauf que les Brésiliens se l'approprient très rapidement. Ils organisent des cours interarmés au Brésil, et c'est eux plutôt qui vont former, avec l'aide des Américains, des Nord-Américains, qui vont former les militaires chiliens au coup d'État de 73. Et il y a d'ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est que c'est eux-mêmes qui font le lien avec les doctrines de la guerre économique. C'est-à-dire la préparation du coup d'État au Chili est liée avec toute cette école qu'on appelle les Chicago Boys, qui sont des économistes qui vont fonder la théorie néolibérale ou l'ultralibéralisme. Et en fait, ils disent à peu près la même chose. Ils disent, voilà, le marché est un organisme vivant. Chaque intervention de l'État, sous-entendu le socialisme, une intervention de l'État sur le marché est une sorte de virus. Il faut immuniser le marché contre les interventions de l'État, donc théorie ultralibérale. Il faut restreindre l'État à sa fonction policière, militaire et de préservation du marché, enfin de la concurrence. Ces gens-là font parfaitement s'entendre avec les militaires qui, eux, considèrent que la nation est un corps qu'il faut immuniser contre toute forme de subversion. La première concrétisation réelle de ça, c'est le Chili. Mais on va voir la même chose en Argentine. La dictature en Argentine va permettre de libéraliser totalement l'économie. Enfin, les Français n'ont pas formé directement les militaires chiliens, si ce n'est à l'école militaire en France où ils sont venus suivre des cours. Mais la formation pratique s'est faite essentiellement par le Brésil, l'armée nord-américaine et dans des écoles en Amérique latine.
Ils ont beaucoup formé les dictatures africaines aussi. Hein.
On m'avait dit qu'il y avait des officiers de ex-OAS ou de l'Algérie française qui étaient partis au...
Ah oui, mais ça, c'est pas officiel.
Préparer les dictatures sud-américaines.
Mmh. Oui, il y a eu... Donc, quand la doctrine a été officiellement abolie en 1960, il y a toute une partie de personnes qu'on a envoyées en Afrique mener la contre-révolution face aux communistes locaux et Lumumba, etc., par exemple, Trinquier est envoyé au Katanga. Donc Trinquier est la deuxième figure symbolique de cette doctrine. On en envoie donc au Cameroun, je parlais du génocide des Bamileke. On retrouve à peu près les mêmes dispositifs qu'il y avait pendant la bataille d'Alger. Et on en envoie plus ou moins officiellement en Amérique latine aussi. Alors Osares va au Brésil, mais il n'est plus là en tant que militaire, il est là en tant que conseiller. Conseiller, sauf qu'il va intervenir dans l'école, l'équivalent de l'école supérieure de guerre brésilienne, il va former des gens. Il va intervenir sur l'équivalent du CIPCG, donc l'école d'entraînement à la contre-guérilla. Et puis après, il va travailler pour les industriels de l'armement, etc. C'est-à-dire qu'on a toute une nébuleuse de gens qui sont évacués. Enfin, les partisans de la doctrine de la guerre révolutionnaire anti-gaulliste sont soit arrêtés parce que faisant partie de l'OAS, soit discrètement évacués vers l'Amérique latine et vers l'Afrique noire en général. Voilà, mais c'est pas des, ils sont pas envoyés officiellement en tant que formateurs militaires.
Pour arriver à une question, j'ai besoin de quelques minutes pour argumenter les prémices. Donc, si. Alors, j'ai dit, je parle plus des choses que j'ai lues, etc., parce que je suis en retard. J'ai dit, on avait entendu, et ici c'est confirmé, les rôles parmi d'autres qui avaient eu les experts français concernant les techniques d'interrogatoire. Dans la formation de ce qu'il me semble en Amérique latine était appelé la contre-insurrection, etc. Même, je ne sais pas si c'était la fabulation, on disait que même pour former des cadres, je ne sais pas, des services nord-américains, etc., un des films de chevet, c'était la bataille d'Alger, non ? Et donc là, quand il y a la scène du personnage que Pontecorvo voit comme une espèce de symbolisation de Massu, qui dit, pour venir à bout de ces triangles, etc., il y a une seule méthode, l'interrogatoire. Et Mathieu Rigouste, il précisait bien l'entremêlement qu'il y a entre les évolutions vertigineuses de la technique, no? Jusqu'à aujourd'hui, à tout le terrain du mental, etc., et aussi les mains qui sont mises comme secteur, quelque part, de capitalisation sur les génomes humains, etc. Quelqu'un parle de biopouvoir et tout. Et évidemment, l'efficacité disons, la férocité, la barbarie, etc. Déjà, Arendt parlait de, avec ces termes, mais de totalitarisme et modernité. On a pu voir même la postmodernité à l'œuvre au Rwanda, parce qu'avec une petite radio, on a déclenché une rapidité génocidaire qui faisait envie au système de convoi, non, Maurice, etc., parce que si chacun tue son voisin Tutsi, un moment avant que d'être tué, puisque la radio lui dit comme ça, c'est un génocide microphysique qui va à une vitesse faramineuse. Et bon, il y avait à mettre en scène italien un camarade assez transgresseur qui posait une banalité de base, mais te faisait réfléchir. Il s'appelle Alberto Griffi. Est-ce que serait pensable le nazisme sans la radio ? Là, à propos de Goebbels, etc. Donc tout ça, d'accord. Et je voudrais poser une question. Ce n'est pas pour rappeler un thème oublié, parce que ce n'est pas du tout oublié, par exemple, dans ton livre, mais je voudrais le poser d'une façon un peu repensée, peut-être. Parmi tous les couples oppositionnels qui nous persécutent dans la réflexion, il y en a une qui est un classique, qui traverse des bagarres d'interprétation, etc. Est-ce que la domination d'État, de capital, de etc., est plus, c'est une question aussi de dosage, due à une contrainte, la contrainte sociale, le besoin, etc., et ça vient quelque part du côté Marx plutôt, ou est plus de l'ordre de la servitude volontaire, la boétie, etc., chose qui est présent, par exemple, dans certains courants, plutôt côté anar, par exemple, cluster, etc. Alors, ce que je voudrais dire, pourquoi devoir toujours choisir par rapport à des alternatives binaires de ce genre comme un ordinateur? Quand même, les côtés servitude volontaire, il me fait penser à ce que Bordiga appelait la contre-révolution stalinienne, à Orwell, à la nouvelle langue, à ce type de au passé aléatoire, etc. Donc, l'énorme scandale d'Auschwitz, c'est la conceptualisation pratique des Untermenschen et même les tentatives de les fabriquer, comme raconte Anthelme ou Primo Levi ou Agamben et les musulmans du camp. Et la provocation de la contre-révolution lassalienne jusqu'à Staline est, par exemple, que dans les textes de l'exclusion de Maurice Rajfus, deux, trois ans après qu'il avait reçu les plaques de ses parents passés pour le chemin à Auschwitz, il a été exclu du Parti communiste, corrige-moi, pour déviation hitlero-trotskiste.
Excuse-moi, mais je ne saisis pas la question que tu veux poser à Maurice Rajfus ou à Mathieu Rigouste.
Oui.
Est-ce que tu peux en venir au fait, s'il te plaît?
Oui, mais j'avais dit. Alors, je vais dire un truc. Je vais dire qu'aujourd'hui,
Si tu veux faire une intervention entière et peut-être on pourra trouver l'espace d'un débat pour ça, mais
non,
si tu veux
pas,
poser une question, c'est le moment.
Je voulais venir à une question, mais si éventuellement il frise l'intervention, ça c'est l'intolérable, je vais arrêter. Hein. Tu me l'as dit, si c'est intolérable, je ne vais pas imposer l'intolérable à personne. Ah, eh bien, je ne sais pas. Alors, non, parce que mais c'est vraiment des minutes. Alors, j'ai dit, si on voit aujourd'hui qu'il y a un mélange infernal, une sorte de d'utilisation hétéroclite d'éléments, distillation des gouttes, des techniques, des savoir-faire, des savoirs coloniales, ludendorffiennes, nazies, staliniennes, dans ce qui utilise cette espèce de démocratie totalitaire par rapport à la gouvernementalité, à venir à bout de l'ennemi interne, etc., qui peut s'appeler l'urgence permanente. Si c'est vrai ça, qu'au fond, au pire, il n'y a pas de fond, alors est-ce que vous ne pensez pas que si on se pose le problème de que faire, on doit bien sûr pas rester dans la dénonciation, analyser, critiquer, essayer de participer de toutes les formes de résistance, même de micro-résistance, mais aussi prendre la chose, ce n'est pas un discours de conscience ou d'un dualisme de temps, du côté de la servitude volontaire. Et ce n'est pas la forme extrême de servitude volontaire, ce qui produit avec une maïosis, ce qu'on peut appeler la démagogie populiste pénale, en créant de la psychose sécuritaire, pas comme ça, mais qui va pêcher dans cette idée néfaste, terrible, humaine, du risque zéro, qui va pêcher dans une espèce d'insurgence de tous les égocentrismes pour lesquels chacun se pose en victime, en détenteur de la mémoire et de l'identité juste. Et donc il y a théoriquement des milliards de léviathans.
Excuse-moi de t'interrompre, mais je ne comprends toujours pas la question que tu veux poser aux intervenants. Alors si tu n'en as pas, on pourra peut-être laisser la parole à ceux qui ont des questions à poser. Non, mais les deux minutes que tu m'as promis tout à l'heure sont passées.
La question c'est, tu vois, point d'interrogation à l'envers comme les Espagnols. Est-ce que, camarade Rajfus et Mathieu Rigouste ou les autres, vous ne pensez pas qu'il faudrait aller au-delà de la dénonciation et au-delà même à côté de l'analyse critique des résistances et des luttes, travailler le langage, le style, les mots d'ordre, les attitudes, les mises en forme publiques des patients. Quand on est là, d'une façon ou d'une autre, même nous, à réclamer d'une façon spéculaire que, par exemple, les bras violents de la loi, ils nous satisfont, ils foutent en tôle des ennemis, des trucs, etc. Bravo. Est-ce que c'est une question ou pas? Si tu ne la comprends pas, moi je ne pense pas que tu es crétin. Ce qu'on comprend, c'est qu'on se laisse comprendre.
Bravo.
Toi aussi.
Bravo. Écoute, au reste, je... Tu parles... Tu... Tu dis qu'il ne faut pas se limiter à la dénonciation. D'abord, j'ai horreur du mot dénoncer. Hein. Mais j'ai dit tout à l'heure que on n'est pas en période ni révolutionnaire ni pré-révolutionnaire. On n'a pas les moyens de s'affronter directement avec l'ennemi en question. Et que moi, je m'efforce personnellement d'informer. Je pense que si peu que ce soit. Si peu que l'information ait, comment dire, ait des répercussions, elle est nécessaire, elle est importante. Depuis, ben, ça fait plus de 15 ans maintenant, avec mon vieux copain Alexis qui est décédé il y a 3 ans, on avait lancé le bulletin Que fait la police, qui était un bulletin de 4 pages, 6 pages, 8 pages, selon les exploits de nos anges gardiens. Et on a fait ce bulletin pendant 12 ans, sans grosses répercussions. Bon, on recevait du courrier, les gens étaient contents de recevoir ce bulletin, mais ne faisaient pas d'efforts pour en savoir davantage. Et puis, depuis la disparition de Jean-Michel, donc Alexis Violet, on est passé sur Internet, et je me suis aperçu que du jour au lendemain, au lieu de 300 correspondants plus que quelques photocopies, on est passé à une consultation de 800 à 900 visites par jour. Ce qui fait qu'il y a effectivement un intérêt sur le comportement de nos forces de l'ordre. C'est-à-dire en moyenne mensuelle, environ 25 000 visites par mois sur les dérives policières. Mais à rebours, on n'a plus de courrier. J'ai l'impression qu'on est face à une population qui aime bien être informée, mais qui n'a pas l'intention de bouger. Parce qu'on est dans une situation bien connue, hein, où tout le monde a la trouille, où il y a non pas 2,5 millions de chômeurs, comme on nous le dit, mais peut-être le double, où il y a autant de salariés, comment dire, à mi-temps peut-être, ou bientôt à mi-temps, autant de gens qui ont peur de perdre leur travail. Récemment, des sondages ont dit qu'un Français sur deux avait peur de se retrouver sans logis. Et dans cette situation de peur, eh bien, les gens se taisent. Ils prennent l'information. Il la regarde avec intérêt ou avec suspicion, mais n'ont pas l'intention d'aller plus loin. Et c'est assez stupéfiant. Là, je viens de la mairie du 14e arrondissement, où il y avait un parrainage d'enfants sans papier. Bon, il y avait 150 personnes. On avait le sentiment, avec tous ces élus socialistes du 14e arrondissement qui étaient là, d'assister presque à un meeting révolutionnaire. C'était tout à fait étonnant. Et en sortant de la salle, eh bien, c'est terminé, parce que au dehors, il y a l'indifférence, il y a les centaines de milliers de personnes qui sont indifférents, et bien souvent, l'indifférence, ça vaut approbation. Et on est dans cette situation-là, où on a affaire avec, même si on a une belle épée bien tranchante, à un adversaire qui est un énorme matelas en plumes. Donc ça ne pénètre pas. Ça ne pénètre pas parce qu'on a une situation sociale extrêmement difficile, préoccupante.
Oui, je voulais d'abord m'adresser à Mathieu de façon un peu plus directe. Pour moi, l'ennemi intérieur, ça remonte bien avant. Si tu veux, je comprends la concrétisation suite à la guerre d'Algérie ou même avant en Indochine. Mais néanmoins, je pense que ça, la considération d'un État, d'un pouvoir... a toujours considéré intrinsèquement qu'il fallait surveiller son intérieur, ses arrières, et que ça remonte beaucoup plus loin. Et ça me rappelle une conversation, si tu me permets, qu'on avait eue tous les deux en parlant du quartier de Gennevilliers du Lut, où comment on avait abattu des grandes travées, parce que l'ennemi intérieur, pour contrôler l'ennemi intérieur, il n'y a pas que les fichiers, il y a aussi le physique. Si vous vous baladez la nuit dans le 93 vers 2h ou 3h du matin, vous allez voir ce que c'est que quadriller une population. Et on avait parlé aussi donc comment on a battu les barres du Lut, parce que c'était deux barres parallèles de 300 mètres de long, et qu'il est évident que entre deux barres de 300 mètres de long de 16 étages, on ne peut pas contrôler la population. Parce que moi, je me rappelle, pour y avoir habité, on avait mis une banderole à l'intérieur, enfin à l'entrée, interdit aux huissiers. Et quand on disait interdit aux huissiers, ça voulait dire interdit aux huissiers accompagnés des flics. Et cette banderole, elle est tombée d'elle-même en décrépitude, mais il est pu rentrer un huissier pendant des années dans le Lut. Hein, maintenant, vous pouvez aller visiter ce quartier à Gennevilliers ou aller voir qu'il a été fait entre guillemets rénové, hein, comme à Saint-Denis, comme ailleurs. Hein, et ça permet une meilleure circulation des flics, on va dire, donc du contrôle de. Et ça rejoint, donc c'est ma question, l'ennemi intérieur, il existait du temps de Haussmann où on a élargi pour que l'armée, hein, c'était l'armée là et pas la police, puisse se balader dans Paris, hein, qu'on évite les barricades. Et donc, c'est juste une question de datation. Pour moi, l'ennemi intérieur, il a toujours. J'ai du mal à situer une date de cette idée d'ennemi intérieur, même si la DGR en est une concrétisation vraiment, j'allais dire, concrète, excusez-moi le pléonasme, mais ce n'est pas daté que de la guerre d'Algérie. Et puis, une dernière chose, tu parlais, Maurice, de la RFID. Il faut rappeler, je crois que c'est pour la fête de la musique de 2004, ils ont fait une expérimentation avec un ballon. Et ça permet, par exemple, ils avaient survolé la place de la Concorde, et ça permet éventuellement de savoir qu'il y avait 32 117 personnes qui s'appelaient un tel, un tel, un tel, un tel. Et de mémoire, ça a été utilisé il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ou 7 mois, je ne sais plus, pour quelle manif, où ils ont, la police a demandé à l'RATP à l'instant T, hein, sans commission rogatoire, etc., de sortir toutes les passes Navigo qui étaient sorties de tel métro, tel métro, tel métro, entre telle et telle heure.
Ouais, non, mais c'est. Enfin, moi, je ne dis pas que ça commence avec les guerres coloniales, l'histoire de l'ennemi intérieur. Et effectivement, ça apparaît partout où il y a des formes d'autorité centralisée. Bon, c'est le titre du livre. La DGR systématise toute une série de dispositifs, et ce dont tu parles, c'est les dispositifs de désignation du bouc émissaire, des choses qui sont anthropologiques. Il y a un bouquin de René Girard là-dessus qui est assez intéressant, bon, et qui montre bon, que partout où, enfin, où Clastre en parle un petit peu aussi, partout où émerge une classe dirigeante et des rapports de domination, il y a des processus de dissociation des gouvernés qui passent par l'utilisation de la désignation d'un bouc émissaire. Quand on l'attrape et qu'on le purge publiquement, qu'on montre le fait qu'on s'est saisi d'un membre impur de la population et qu'on le détruit. Tous ces phénomènes-là, c'est des phénomènes anthropologiques qui existent un peu partout et qui sont liés à la nature d'un pouvoir centralisé. Le lien que tu fais avec le Lut, c'est bien, ça va me permettre d'essayer de répondre au reste aussi, et puis de dire, enfin, si c'est un débat, on n'est pas obligé de demander des questions, machin, et si au reste, il y a des trucs à développer ou n'importe qui, bon, enfin, moi en tout cas, ça ne me gêne pas, quoi. Gennevilliers, c'est intéressant, et c'est comme un peu, c'est comme le type qui s'est chargé de la rénovation urbaine à Gennevilliers est le même que celui qui s'est occupé de la caravelle. Il s'appelle Roland Castro, c'est un ancien Mao qui a développé un concept qu'il appelle l'urbanité. Et en gros, l'urbanité, ça veut dire transformer toute l'existence des populations dans les quartiers, donc en les rassurant parce qu'ils sont forcément dévorés par la peur. Et donc lui parle de faire circuler l'air. À Gennevilliers, il disait qu'il fallait faire circuler l'air. Parce qu'en fait, l'air ne circulait pas assez, donc c'est à cause de ça, des miasmes, on ne sait pas trop, c'est purement haussmannien. Et donc ce qu'il a fait, donc il a fait tomber une barre, et puis après il en a percé d'autres. Et ces rues, personne ne les avait demandées, il y a juste eu un débat avec la municipalité après, donc où les gens qui viennent à ces débats sont que les gens qui sont d'accord ou copains avec la municipalité. Où on a entériné le fait que, oui, bon, la population, finalement, avait très envie de faire circuler l'air. Bon, bah, depuis, c'est ces rues-là qui sont bloquées à chaque fois par la police quand la police décide de bloquer le quartier, d'occuper le tarif. Le quartier, c'est, à mon avis, très clairement une demande policière. Et en tout cas, la rénovation sécuritaire des quartiers passe par des architectes et par toute une espèce d'intelligentsia de la transformation urbaine et qui s'appuie clairement sur des trucs haussmanniens. L'histoire d'avoir empêché les huissiers de rentrer, c'est assez intéressant et ça permet de suivre un petit peu sur ce que disait Oreste. Et moi qui m'intéresserait qu'on développe un peu après, je ne sais pas comment ça va se passer si le débat prend vraiment après, mais sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Juste pour en poser les bases, moi mon travail, je crois que la seule chose qu'il peut essayer de montrer, c'est d'une qu'il y a de toute façon le développement sécuritaire est lié à la machine économique et politique qu'il y a derrière. Aujourd'hui, comme hier, sous Haussmann, comme aujourd'hui, il y a une machine économique et politique derrière et on n'en sortira pas tant qu'on n'aura pas attaqué cette chose-là. L'autre chose que ça montre, c'est que des formations de type qui ressemblent à celles de l'État, comme a pu être le Viet Minh, le FLN, comme toutes les guérillas marxistes, clandestines, armées avec des chefs, etc., c'est-à-dire que des groupes qui rentrent en concurrence pour la prise de l'État se font dévorer par ces technologies-là. D'une, parce qu'ils reproduisent des systèmes de surveillance intérieure pour ne pas être infiltrés, etc. Ils créent du contre-espionnage. Et par exemple, comme Marighella le montre, donc Marighella qui était guérillero au Brésil, lui le dit, c'est un castriste, il dit, bon, bah, voilà, c'est cette élite de la guérilla, celle qui est chargée de suivre les infiltrés, les ennemis intérieurs dans la guérilla, qui mettra en place l'État socialiste, etc. Donc la question, c'est un avis personnel, elle est de pouvoir s'attaquer à la structure économique et politique sans conquérir l'État, sans revendiquer de reprendre l'État, ce qui veut dire se réapproprier le territoire. Et donc quand tu dis empêcher des huissiers de rentrer sur le quartier, c'est une de ces choses-là. Et il y en a plein, des espèces de contre-dispositifs comme ça qu'on peut mettre en place justement pour se réapproprier le territoire sur un quartier. Alors on a parlé un peu... Enfin, il y a eu des débats autour du cop-swatching, la surveillance de la police, parce que, par exemple, on peut tomber dans des débats sur l'abolition de la police, de la prison, etc., mais concrètement, les problèmes qui se posent sur les quartiers en ce moment, c'est d'arrêter d'avoir des morts et une occupation militaire, quasi-militaire et permanente du territoire. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place. Le cop-swatching, donc, c'est des équipes de gens qui se font connaître du quartier avec des tracts, etc., et donc qui descendent. Qui filment en permanence la police, qui mettent à disposition par exemple un site internet sur lequel on peut envoyer les vidéos, qui vont se constituer, qui vont porter plainte par moment. Alors voilà, donc je le liais tout à l'heure au débat, c'est-à-dire qu'avec le meilleur avocat du monde, etc., on ne changera pas les lois, c'est la bourgeoisie qui fait les lois, mais ça permet d'atténuer les peines. Et donc pour avoir des bons avocats, il faut avoir des caisses de solidarité aussi. Les caisses de solidarité, c'est aussi des dispositifs à mettre en place sur un quartier. Ça permet d'avoir une discussion avec l'ensemble de la population, d'aller chercher des sous pour avoir des bons avocats, pour se défendre, pour faire ses propres médias aussi. Il y a toute une série d'expériences qui peuvent être testées comme ça. À Toulouse, il y a la Casse Santé. La Casse Santé, c'est un groupe de médecins et d'infirmiers qui travaillent sur un quartier et qui travaillent en amont de la maladie, qui consiste à dire que on ne peut pas être en permanence dans une stratégie de « il faut soigner les maladies », etc. Les maladies, elles ont des causes économiques, sociales. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler avec les gens, que les gens se réapproprient leur santé. Et donc, à la Casse Santé, il y a aussi des débats, des après-midi avec les vieux, avec les gamins sur la sexualité, sur la santé, etc. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent se développer sur les quartiers, qui peuvent être liées du coup à des caisses de solidarité, qui peuvent être liées à des groupes qui interviennent quand il y a des rafles, quand la police s'installe. On peut imaginer dans l'avenir des caisses de sécurité sociale, des caisses de retraite gérées par la population. En tout cas, voilà. Le fait est que je ne crois pas du tout que l'organisation d'une... Enfin, que s'organiser dans un rapport mimétique avec l'État, on perdra toujours de ce point de vue-là, et encore plus du point de vue de la force. Et que la question est de se réapproprier le territoire pour transformer les structures économiques, sociales et politiques, parce que le sécuritaire est qu'une émanation de ça. Et enfin voilà, c'est pour lancer le débat politiquement.
Voilà, donc ce débat, on va le reprendre en fait dans quelques instants. Je vous propose voilà de souffler un petit moment. Et puis juste après, il y a Mauvaise Intention et le MIB qui vont intervenir. Et voilà, ce sera justement le moment où on pourra reprendre ce qu'on a déjà commencé avec Mathieu, à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir, Anne Masseran. J'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar. Sale cafard, Anne Masseran. En écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne Masseran. Tu pensais qu'on oublierait jamais, mais mauvaise mémoire. Elle ressort de sa tanière, la nazi nostalgie. Croix gammée et bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes imparties. La voilà revenue, historique, hystérique. Anne Masseran, si je te disais ce que j'entends. Anne Masseran, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Anne Masseran, j'aurais tant voulu te dire. Tu peux dormir tranquille, elle reviendra plus. La vermine met beaucoup d'indifférence, de patience malvenue. Pour ces anciens damnés, beaucoup de déjà vu. Beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières. Cette nazi nostalgie qui ressort de sa tête.